il est ou forme, ou matière, ou intervalle entre les extrémités, ou les extrémités. Donc, morphé, ou les, diastéma, ti, donc l'intervalle. À certains intervalles, le métaxu, entre les hécatones, ou les hécastas. Ça, je crois qu'il faut bien le noter, c'est intéressant. Puis c'est intéressant de voir comment il aborde le problème, vous voyez, par l'aspect de la division, et donc l'aspect de la négation. S'il n'y a aucun intervalle en dehors de la grandeur de la chose qui s'y trouve. Donc, ils sont les extrémités s'il n'y a aucun intervalle. De ces solutions, trois sont inadmissibles. C'est manifeste. On va garder tout de suite. C'est par la propriété d'envelopper que la forme semble être le lieu. Voilà, ça, c'est aussi très intéressant. C'est par la propriété d'envelopper que la forme est liée, donc, à être le lieu. La forme enveloppe. En effet, les extrémités de ce qui enveloppe et de ce qui est enveloppé sont les mêmes. Le contact, même extrémité, la lettre dans l'enveloppe. Fabrice dans le sac, vous voyez, les extrémités sont toujours. Alors c'est l'enveloppe. Assurément donc, ce sont là deux limites, mais non du même être. La forme est de la chose, le lieu du corps enveloppant.
Prendre la place de l'eau. Mais toutes les
le lieu sera soumis lui-même au changement. Ainsi, il y aura pour le lieu encore un autre lieu, et plusieurs lieux seront ensemble. Mais il n'y a pas, pour la partie, un autre lieu dans lequel elle est mue. Quand tout le vase change de place, c'est toujours le même. Mais c'est dans le lieu où ils sont que changent mutuellement de place l'air, l'eau et les parties de l'eau. Mais non, le lieu où arrive le tout, partie du lieu qui est celui du ciel entier. Je ne vais pas trop insister là-dessus, hein, parce que c'est intéressant de voir l'analyse que fait Aristote pour supprimer le point de vue de l'intervalle comme lieu. La matière, c'est facile à comprendre. D'un autre côté, la matière pourrait paraître aussi être le lieu. Quand on considère dans un corps en repos un attribut non séparé mais continu. Oui. La terre est le lieu du caillou qui repose. Hein? La terre enveloppe. Si la forme est enveloppante, la terre est encore plus enveloppante. Toujours. C'est vrai. Le réceptacle est immatériel. Il reçoit. De même, en effet, que dans une altération, il y a quelque chose qui maintenant est blanc et tout à l'heure était noir, dur et tout à l'heure mou. C'est notre preuve de l'existence de la matière. Ainsi, une même représentation, semble-t-il, s'applique au lieu, sauf que l'on dit l'eau est maintenant ce qu'était l'air. Et dans le cas du lieu où était l'air, là est maintenant l'eau. Mais la matière, comme on l'a dit plus haut, n'est pas séparable de la chose, ni de l'enveloppe, de caractère du lieu. Donc, il y a une proximité entre la matière et le lieu. Il y a des propriétés semblables, qui fait qu'on confond si facilement. Comme il y a une propriété semblable avec le point de vue de la forme. C'est ça qui serait intéressant, hein, de voir les propriétés communes de la matière et du lieu, les propriétés communes de la forme et du lieu, et comment l'intervalle peut être considéré comme un lieu. Tout ça, c'est l'imagination. C'est la représentation. C'est l'imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le lieu ? Si donc le lieu n'est aucune des trois choses, ni la forme, ni la matière, ni un intervalle, qui serait quelque chose de différent de l'intervalle d'extension de l'objet déplacé, reste nécessairement que le lieu est la dernière des quatre. Hein? C'est curieux, hein? Manière de raisonner. À savoir la limite du corps enveloppé. C'est la limite du corps enveloppant. J'entends par corps enveloppé celui qui est mobile par transport. Donc, c'est la limite du corps enveloppant. La péras, topéras. Topéras, tout périécontos somatos. Donc le somatos, le corps, enveloppant la limite du corps enveloppant. J'entends par corps enveloppé celui qui est mobile par transport. Bon, on comprend très bien ce que c'est que le corps enveloppé. Et la limite du corps enveloppant, c'est votre lieu. La péras. On va expliquer un peu plus. Il semble que soit une grande grande et difficile question que de comprendre le lieu. Une grande et difficile question. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien compris. Puisque c'est une grande et difficile question. Mais au moins vous aurez entendu qui. Vous saurez que c'est une grande et difficile question de comprendre le lieu, de saisir ce que c'est que le lieu. Le Dhyan. Parce que il donne l'illusion. C'est ça qui est intéressant. Phaneron, il a c'est l'apparence. Il donne l'illusion d'être la matière et la forme. Parce que le déplacement du corps transporté se produit à l'intérieur d'une enveloppe qui reste en repos. Le lieu paraît en effet pouvoir être une autre chose, intermédiaire, indépendante des grandeurs en mouvement. À cela contribue l'apparence que l'air est incorporel. Le lieu paraît être en effet non seulement les limites du vase, mais ce qui est entre ces limites, considéré comme vide. D'autre part, comme le vase est un lieu transportable, ainsi le lieu est un vase qu'on ne peut mouvoir. Ça c'est une analogie métaphorique. L'analogie métaphorique du lieu, c'est le vase. Ça vous aide à comprendre. Comme l'analogie métaphorique de l'éternité, c'est l'instant subsistant. Oui, c'est comme si ça s'arrêtait. Alors, l'éternité, ce n'est pas l'arrêt du temps, puisque le temps provient d'éternité. C'est métaphorique pour notre imagination. Oui. Plus c'est difficile à comprendre, plus l'imagination remue tout. Plus c'est difficile, quand on saisit quelque chose tout de suite, ça va très bien. Mais plus c'est difficile, plus l'imagination bat la campagne. Comme c'est très difficile de faire oraison, l'imagination bat la campagne. Comme c'est très difficile de saisir ce que c'est que le lieu, alors l'imagination bat la campagne. Toutes les choses difficiles. D'autre part, comme le vase est un lieu transportable, ainsi le lieu est un vase qu'on ne peut mouvoir. Par suite, quand une chose intérieure à une autre qui est mue, est mue et change de place, comme un navire sur un fleuve, elle est par rapport à ce qui l'enveloppe, plutôt comme dans un vase que dans un lieu. Le lieu veut être immobile. Aussi est-ce plutôt le fleuve dans son entier qui est le lieu, parce que dans son entier, il est immobile. Donc, le terme du corps enveloppant qui est immobile. Alors, on va encore préciser. Par suite, la limite immobile immédiate de l'enveloppe, tel est le lieu. Donc, la péras, la limite de l'enveloppant, péri et kontos, immobile à kineton, proton, immédiate, proton, premier. La limite immobile, première de l'enveloppe. Corps enveloppant. Tel est le lieu. Ceci est le lieu. Alors, ne cherchez pas à imaginer, hein. Parce que si vous imaginez, vous tombez tout de suite dans ce qui n'est pas le lieu. Le lieu n'est pas imaginable, puisqu'il est immobile. Tout ce que vous imaginez est mobile. Et ça reste dans le monde physique. C'est ça qui est le mieux. Conséquence. On verra si c'est vrai. Hein. Ici, j'essaie de comprendre Aristote. C'est un grand bonhomme. il a fait une étude sur le lieu. Cette étude sur le lieu, saint Thomas l'a prise très au sérieux. Il l'a commentée. Et il s'en sert dans sa somme. Et donc, si vous ne comprenez pas ce que c'est que le lieu, tel qu'Aristote le dit, quand saint Thomas l'emporte, vous faites une petite image. Et vous avez une connaissance métaphorique du lieu, le vase. C'est pas commun du tout, hein, ça. Je suis tout à fait d'accord du reste, Aristote le dit. Hein. Conséquence, le centre du ciel et l'extrémité, celle qui est de notre côté du transport circulaire, sont admis comme étant pour tout, au sens éminent, l'une le haut, l'autre le bas. En effet, l'un demeure éternellement. L'autre, l'extrémité de l'ordre, demeure en ce sens qu'elle se comporte de la même manière. Par suite, puisque le léger, c'est ce qui est transporté naturellement vers le haut, le lourd vers le bas, c'est la limite enveloppante qui est du côté du centre. C'est aussi le corps central lui-même. Le haut, celle qui est du côté de l'extrémité, et aussi le corps extrême. Autre conséquence, le lieu paraît être une surface et comme un vase, une enveloppe. En outre, le lieu est avec la chose, car avec le limité, la limite. C'est exactement ce que c'est que le lieu. La limite du corps enveloppant. C'est là où il faut réfléchir. La limite du corps enveloppant, immobile. Akhenaton. Et Proton. La première. Alors, continuons un tout petit peu cette lecture. Analogiquement, je parlerai du lieu de l'âme spirituelle, de l'intelligence et de l'amour. Je dirais que le lieu de celui qui aime, c'est celui qui l'aime. Il est son lieu. C'est métaphorique. Puisque c'est là qu'il se repose. Il peut se reposer que là. Et l'intelligence a comme lieu la réalité connue. Elle est mesurée par la réalité connue. Donc la réalité connue est le lieu de sa connaissance. Oui, je prends exprès ces métaphores. Parce que les métaphores, pour nous, c'est plus facile à comprendre. Il faut essayer de comprendre maintenant le premier analogué. Qu'est-ce que c'est que le lieu ? Du corps. C'est mon corps qui est localisé. Alors, je prends encore ce petit texte. Comme on l'a dit, les choses sont dans un lieu, les unes en puissance, les autres en acte. Par suite, quand un corps homogène et continu, les parties sont dans un lieu en puissance. Quand séparées, elles sont en contact et en tas, en acte. D'autre part, les choses sont dans un lieu par soi. Par exemple, tout corps mobile, par transport ou augmentation, est par soi quelque part. Mais le ciel, on l'a dit, dans son ensemble, n'est pas quelque part, ni dans un certain lieu, si du moins aucun corps ne l'entoure. Faut bien. L'univers dans sa totalité n'est pas enveloppé par un autre univers. C'est sûr. Faut bien. D'autre part, donc, mais le ciel, on l'a dit, dans son ensemble n'est pas quelque part, mais ni dans un certain lieu, si du moins aucun corps ne l'entoure. Mais en tant qu'il se meut, il y a un lieu pour les parties. Et en effet, une partie est contiguë à une autre. D'autres sont dans un lieu par accident, comme l'âme et le ciel. En effet, toutes les parties sont dans un lieu en un sens, car sur l'orbe, elles s'entourent mutuellement. C'est pourquoi la partie supérieure se meut circulairement et seulement ainsi. Mais le tout n'est pas quelque part. En effet, la chose qui est quelque part est d'abord par elle-même une chose. Ensuite, on suppose une autre à côté, en laquelle consiste l'enveloppe. Or, à côté du tout de l'univers, il n'y a rien en dehors du tout. Et par suite, tout est dans le ciel. Car le ciel est le tout, c'est bien entendu. Or, le lieu, ce n'est pas le ciel. C'est l'extrémité du ciel qui est en contact avec le corps mobile, comme limite immobile. Par suite, la terre est dans l'eau dans l'air, celui-ci dans l'éther dans le ciel. Mais celui-ci n'est plus dans autre chose. Ça, c'est la vision d'Aristote. Là, c'est très visible. Et toujours cette notion, être dans un lieu, c'est la limite du corps enveloppant. Et la limite immobile du corps enveloppant. Donc pour monter, pour arriver à la sphère suprême. Puisque c'est par des sphères, des orbites. La sphère suprême. La sphère suprême qui est, elle, mobile. Ou immobile. est manifeste après cela qu'une telle théorie du lieu résout toutes les difficultés. Vous voyez, j'ai dit ça pour avoir la méthode. Hein. Si vous êtes attentif à la méthode, vous voyez qu'après avoir dit le ti esti, Aristote cherche le pose. Où est le lieu ? J'ai précisé qu'est-ce que c'est que le lieu, puis je vois les localisations. Nous sommes tous localisés. C'est bien évident. Donc il cherche une localisation de toutes les réalités sublunaires, et puis les réalités qui sont au-dessus, comment elles se localisent ? Toujours par le corps supérieur. On est localisé par le corps supérieur. On n'est jamais localisé par le corps inférieur. C'est pour ça que l'objet localise l'intelligence, la réalité connue. Et la réalité aimée localise l'amour. Et le lieu est toujours la limite du corps enveloppant, limite immobile et immédiate. Donc, après avoir saisi le tiesti, il montre le pose, et après avoir montré le tiesti et le pose, il répond aux difficultés. Mais vous avez là, au point de vue méthode philosophique, quelque chose de très remarquable et très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à la méthode. Et on comprend très bien. Vous voyez, quand les choses sont plus faciles à saisir, Aristote va plus vite. Quand les choses sont difficiles, il exploite toute sa méthode, tout au long. Alors, il y a un point très délicat, vous l'avez senti, j'espère. Quelle est la critique, je vous demande? Quelle est la critique que vous feriez spontanément à cette méthode ? Telle qu'elle est exposée. Vous sentez, j'espère, quoi.
Aristote a proposé quatre solutions.
Oui. Méthode de division. Alors, ça c'est intéressant. Comparer Aristote à Platon. Et c'est intéressant parce que la méthode de division reste descriptive. Alors, je dis que c'est ce qui nous heurte. Hein. On va voir si c'est vrai ou pas. Hein. Je n'accuse pas Aristote. Je dis ça nous heurte en premier lieu. Quelle méthode Aristote emploie-t-il quand il cherche à saisir la nature ? L'induction. Ici, il emploie la division. L'induction, on l'emploie pour la découverte des principes. On ne l'emploie pas pour la découverte des accidents. Donc des choses secondaires. Or, le lieu n'est pas un principe. Si le lieu était un principe, oui, j'essaie de comprendre Aristote. Hein. Si le lieu était un principe, cette méthode est fausse. Elle est platonicienne. Le reste de Platon dans Aristote. La physique est un écrit très ancien pour Aristote. Alors le De Anima est au contraire un écrit très ultime. Donc il est encore très proche de Platon. Donc il n'y a rien d'étonnant que reste encore une méthode par division. Toute la question est de savoir. Alors là, c'est une question importante que nous devrons résoudre. Nous devrons résoudre ça. Pour voir si ce que dit Aristote est bien ou pas. Est-ce que le lieu est principe ou est-ce que le lieu est un mode secondaire du corps ? qui est physique. Est-ce que c'est quelque chose de secondaire? Toute la question est là, hein, au fond. Quand Aristote dit que le lieu, c'est la fin du corps. Le corps, alors l'image très simple, le corps tombe et s'arrête. Finalise. Si le lieu finalise, il est principe. Ah, c'est sûr.
Est-ce qu'il finalise pas accidentellement?
Non, dites pas accidentellement, dites imparfaitement. Pas, il ne peut pas finaliser accidentellement. Ça jure. Parce que qui dit fin dit quelque chose qui termine. Or, l'accident ne termine jamais. Le per accidens, vous voyez. Tandis qu'il peut y avoir des fins qui ne sont pas des fins absolues. Curieux, là on sait ce que c'est que l'être mu. Et on saisit cette fameuse parole d'Aristote, hein, qui est quand même très importante, l'âme est fin du corps. Ah. Si le corps avait une fin dans l'ordre physique, parfait. Il ne peut pas avoir deux fins. Il faut une fin parfaite, une fin parfaite. Alors ça, c'est, on touche là quelque chose qui va nous aider à comprendre ce que c'est que le lieu. Parce que c'est pas commode. Hein. C'est important. C'est, pour Aristote, c'est une pièce très très importante dans sa physique. Pas tout négligeable. Si c'était négligeable, je laisserais tomber. Vous voyez. C'est des choses que je laisse tomber. C'est pas du tout négligeable. Et ça donne très bien saisi. Qu'on ne comprenait rien à la philosophie de la nature d'Aristote si on ne comprenait pas le lieu. Alors c'est pour ça que c'est intéressant à voir. Oui. C'est fin. Péras. Péras. La péras, c'est les limites. Il y a des limites qui sont des fins, il y a des limites qui ne sont pas des fins. Il y a des limites qui sont des murs. Je me casse la tête dessus et on verra qu'est-ce qui est le plus fort, la tête ou le mur. Et jusqu'au bout, on cassera sa tête sur le mur. Et le mur cédera et la tête l'enfoncera. Constamment, on est en face de limites. Est-ce que c'est une fin ou pas? Quand la limite est fin, alors elle permet à celui qui touche cette limite de se reposer. Votre oreiller, il faut le défoncer. Quand votre oreiller est une pierre, est-ce que c'est une fin ou est-ce que c'est une limite? Mais on touche des choses, c'est pour ça que cette question du lieu, tout revient là-dessus. La limite conditionne. La fin finalise. Or, cette différence entre la philosophie et la psychologie, c'est ce qui finalise et ce qui conditionne. C'est quelque chose de très subtil. Alors, est-ce qu'une même chose peut conditionner et finaliser? dans l'ordre physique. Dans l'ordre physique. Et on peut faire qu'une limite devienne un tremplin. On peut faire qu'une limite devienne une disposition pour aller plus loin. À ce moment-là, je transforme la limite en voie d'accès, disposition. Ça, c'est sûr. Comme ça, constamment, dans notre vie, des choses qui viennent nous limiter, nous conditionner, pendant tout un temps, une petite lumière. On dit, ah, mais cette limite est-elle le moyen de se dépasser? Alors, à ce moment-là, la limite n'est plus la limite qui arrête le mur. Elle est en vie commune. C'est constamment ça. Oh, telle sœur, si elle n'était pas là, ce serait le paradis. Parce qu'elle est. Et le frère, s'il n'était pas là, ce serait le paradis. Il me défonce la tête. Puis je ne sais pas si celui qui est le plus insupportable et c'est celui que je rencontre le plus. Parce que c'est tout le temps comme ça. Donc je me heurte tout le temps. J'ai beau essayer de repérer les heures dans lesquelles il passe à tel endroit. Et puis je change. Je ne sais pas ce qui se passe, il change en même temps. Et on se retrouve tout le temps. On se heurte tout le temps. Mais... Alors, aujourd'hui, cette limite, ce mur, c'est peut-être très providentiel. Ça devient mon sycomore. Je vous montre dessus. La limite devient disposition. Nos maladies sont comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'un coup de baguette. Hein? Non. Mais c'est constamment comme ça. Il faut une vitalité nouvelle, vous voyez. Parce que c'est une question de vitalité, ça. Pour dépasser l'obstacle. C'est pour ça qu'on n'enlève pas toujours l'obstacle. Parce que l'obstacle a peut-être été un moyen de... Alors, vous voyez, on touche ici. C'est ça qui m'intéresse au plan philosophique. Et dans la philosophie de la nature, parce que dans la philosophie de la nature, on trouve toujours les choses d'une façon très très forte. C'est la matière. La matière, pour moi, c'est pour chacun d'entre nous, c'est quand même très important. C'est là où les choses se marquent. Alors, on trouve ici le lieu. Je pose la question. Hein. Le lieu est-il un principe? Est-il une fin? Dans quelle mesure est-il fin? Dans quelle mesure le lieu me conditionne ou me finalise? Toujours la grande interrogation. Alors, parce que si c'est une limite au sens rigoureux, que ce n'est pas une fin, que c'est un mode second du corps-mou, je ne l'atteins pas par induction. Je l'atteins par expérience. Toutes les modalités secondes de l'être, tous les accidents, je les décris. Je les atteins directement. Alors que les principes sont au-delà. Vous avez remarqué, hein, la limite immobile. Seul le principe est immobile. Donc, Aristote nous dit, si seul le principe est immobile, Aristote nous montre bien que le lieu est un principe. C'est un principe, le lieu. Dieu ne conditionne pas, il finalise. Mais il finalise en conditionnant. Pourquoi ? Parce que c'est une fin dans le monde physique de ce qui est mu. Alors, ce qui est mu comme tel ne trouve pas en lui-même sa propre fin. Il la trouve dans le corps supérieur. Et ce n'est jamais une fin absolue. Parce que le corps supérieur trouve lui-même sa fin dans un autre corps supérieur. Donc ce n'est pas une fin absolue. C'est donc à la fois quelque chose qui conditionne et quelque chose qui finalise. Alors, je reviens à la méthode d'Aristote. Si c'est une fin, je dois l'atteindre par une induction. Mais j'ai tout de suite dit une fin imparfaite. C'est une fin imparfaite, puisque le corps souffre ce qu'il y a d'ultime. C'est une fin imparfaite, puisque le corps inférieur trouve son lieu dans le corps supérieur, celui-ci dans le corps qui est avant lui, et ainsi de suite. Et le dernier, il n'y a pas de corps extérieur. Le dernier ne peut trouver sa fin que dans le mouvement circulaire et en lui-même. C'est la vision d'Aristote, ça. Là, c'est peut-être pas tout à fait juste. C'est la vision d'Aristote, le corps supérieur. Vous dites, trouve en lui-même, et au-delà de ce corps circulaire, il y a ce qui lui permet d'être immobile. Il y a un corps immobile. Plus exactement, un movens immobile. Mais comment Aristote structure les choses? Alors, cette fin imparfaite, elle est dans le monde physique la trace de la finalité, limite immédiate, immobile. Elle est donc à la fois saisie d'une manière par division, puisqu'elle est dans le monde physique. Et elle est saisie par induction. Alors, je comprends pourquoi Aristote commence par la division. Et reste la dernière chose. Ça, la division présuppose un partage des choses. On a vu que, de fait, les seules choses qui peuvent vraiment finaliser, les seules choses qui peuvent permettre un certain enveloppement, parce que c'est ça l'idée, on a eu accès par l'enveloppement. Qu'est-ce qui peut être enveloppant? La forme, la matière, l'intermédiaire et le corps enveloppant. Pas d'autre chose. Donc, je dis, la méthode de division, j'enlève tout ce qui est forme, matière, puis intervalle. Il reste le corps enveloppant. Et pour le corps enveloppant, une induction. Le corps enveloppant ne peut pas jouer le rôle de lieu en tant qu'il est mu. Ce serait contradictoire. Il peut jouer ce rôle de lieu en tant qu'il actue. Et donc, en tant qu'il est l'enveloppant immédiate, protone, immobile. Donc, vous voyez comment il y a à la fois division et une certaine induction. Mais très très rapide. Mais elle existe, l'induction. Vous ne touchez pas avec la main le lieu. Seule l'intelligence se découvre. Si vous avez le temps, relisez Stein-Tarissat, ça vaut la peine. au bon moment, vous savez. Alors, on continue. On sent très bien qu'Aristote, sous